par situation de la guerre, respectivement par les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, le gouvernement peut répondre que notre effort militaire se déploie directement au service des intérêts nationaux. C'est d'ailleurs en pratique la meilleure façon de servir l'intérêt militaire de la coalition. Rien ne peut illustrer ce principe mieux que l'action puissante actuellement menée par nos forces de l'intérieur au profit de la bataille commune. Au reste, nous nous plaisons à constater que le haut commandement interallié a hautement reconnu la valeur de cette action dès lors qu'il a mesuré le contour qu'elle a porté aux opérations d'ensemble. Il en est résulté quelques améliorations dans l'armement de nos forces de l'intérieur. L'Assemblée apprendra avec quelque satisfaction que les quantités d'armes et d'équipements parvenus aux forces de l'intérieur dans le courant de chacun des mois de juin et de juillet sont en moyenne 7 fois plus élevées que celles qui leur parvinrent durant le mois le plus favorable avant le commencement de la bataille de France. Il faut dire que parallèlement, les effectifs engagés du sous-officier de l'Est ont plus que triplé en 3 mois et atteignent actuellement plusieurs centaines de tiers seulement et dotés d'un armement convenable. C'est dire à la fois quel effort reste à faire pour l'équipement de ces forces et quel rôle elles sont susceptibles de jouer dans la suite des opérations si l'on en juge par qu'elles sont déjà faites. Chacun comprend que le caractère très mouvant et très dispersé de la lutte menée par nos forces de l'intérieur interdit de leur appliquer les procédés de commandement habituellement usités. Il est évident que la direction doit s'exercer principalement sur le plan local. L'impulsion d'ensemble qui incombe bien entendu au gouvernement et aux organismes qui l'en a chargé à l'intérieur du système de commandement interallié consiste à prescrire l'attitude générale que doivent observer les forces de l'intérieur suivant les phases de la bataille et les possibilités à leur fixer certains objectifs essentiels, à organiser les tours de communication, à susciter et à éclairer les initiatives des éléments divers et de leurs faits. C'est ainsi pour la première phase, marquée par le débarquement des Alliés et l'établissement de la tête de pont sur la ligne Saint-Lô-Camp, les consignes données par le moyen des liaisons préalablement établies visaient à intercepter les communications ennemies sur des axes et en des points d'avance déterminés et à l'attaquer dans toutes les régions, les détachements ennemis isolés, soit dans leur cantonnement, soit sur les routes, sans accepter cependant l'engagement généraux et prolongé. En même temps, et tout en combattant, les forces de l'intérieur auront à compléter leur organisation en fonction des effectifs croissants qu'elles incorporaient, du matériel d'armement qui leur parvenait, des cadres, des spécialistes et des renforts qui leur étaient renvoyés de l'extérieur. Messieurs, les résultats déjà obtenus ont entièrement répondu à ce qu'attendait le gouvernement et ont dépassé ce qu'attendaient certaines autorités différentes. Il est littéralement vrai que tout l'ensemble du réseau des communications ferrées en France a été et demeurait bouleversé par nos forces depuis le début du jeu et que l'arrivée des réserves allemandes a subi de ce fait des pertes très graves de passant une semaine pour certaines unités, comme par exemple la division d'Arpaï. D'autre part, des zones étendues, parfois des départements entiers se trouvaient à tel ou tel moment contrôlés par les troupes françaises opérant au grand jour. Ainsi en fut-il dans l'Ain, la Drôme, la Fosse, l'Aveyron, la Dordogne, l'Isère, les Hautes-Alpes, les Basses-Alpes, le Vaucluse, la Haute-Loire, la Corrèze, le Cantal, la Creuse, la Haute-Vienne, le Lot, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, la Bretagne intérieure, les Vosges, la Vienne, la Franche-Comté. L'ennemi, dans le Vercors, l'Ain, l'Ardèche, la Savoie, le Dauphiné, la Haute-Savance, a dû ou doit monter de puissantes offensives militaires pour tenter de se rétablir. En ce moment même, il attaque le massif du Vercors avec des forces de toutes armes et des unités blindées, et une adversion importante. D'après des rapports indiscutables, les Allemands ont perdu déjà dans cette lutte au moins 8 milliers de morts, plus de 2000 prisonniers et une quantité très grande de matériel. Les effectifs que les Allemands sont contraints d'employer contre nos troupes sur le sol métropolitain atteignent la valeur de 7 000 divisions au moins. Encore, et malgré la répression féroce à laquelle ils se livrent contre les populations sans défense, ne parviennent-ils aucunement à dominer la situation? Nous avons des raisons de croire que les pertes et les difficultés qui leur sont ainsi causées iront en multipliant par nos attaques progressivement accentuées, par le nombre croissant des destructions appliquées à tout ce qu'ils utilisent, par le refus du travail dans les entreprises dont ils se servent, enfin, par ces mille et mille actions de détail exécutées contre eux en tout point de nos vies, de nos campagnes, et qui contribuent à ruiner leur puissance en même temps que leur valeur morale. Ah, certes, la France sait ce que cette forme de guerre lui coûte à elle-même en fait d'inhumaine et de ruine matérielle. Il appartient au gouvernement de proportionner autant que possible les pertes avec les résultats, mais il lui appartient aussi de faire en sorte que l'ennemi garde pour des générations le souvenir de ce qu'il en coûte d'envahir la terre de nos pères. C'est pourquoi je réponds que notre effort à l'intérieur ne cesse pas de grandir comme contribution capitale à la libération du pays, pour lequel la nation reçue toute entière, l'intervention du gouvernement de la République, sera pour en sorte, en liaison avec ses armées et celles de ses alliés, que finalement cet instant ne soit autre chose qu'un cadavre ou un prisonnier.